Le député Nicolas Metzdorf, membre de la délégation loyaliste dans les négociations sur l'avenir institutionnel, était l'invité de Transparence vendredi. Extrait à suivre dès le début de ce journal. 7 adultes sur 10 en situation de surpoids ou en obésité en Nouvelle-Calédonie lors du vide-grenier du centre-ville. L'agence sanitaire et sociale proposait ce matin au kiosque à musique une opération de sensibilisation. Journée de mobilisation politique ce dimanche en métropole. Le Rassemblement national, la France insoumise et les écologistes seront dans les rues de Paris. Le parti présidentiel sera lui à Saint-Denis. La politique américaine sur les droits de douane pourrait coûter à la France plus de 0,5% de son PIB, déclaration du Premier ministre François Bayrou dans une interview au Parisien ce dimanche. Le sport et le football, le Paris Saint-Germain a remporté son 13e titre de champion de France. Les Parisiens sont imposés ce matin 1-0 sur Angers lors de la 28e journée du championnat. Et puis en Calédonie, dernier jour de compétition pour la coupe Arias Pacta de badminton à la salle Omnisport de Lanzvata. Une centaine de badistes s'affrontent jusque ce soir en double. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. Le député Nicolas Metzdorf va se rendre en Arménie dans les tout prochains jours. Il y sera du 16 au 18 avril à l'invitation de SOS Chrétien d'Orient. Il l'a annoncé vendredi midi dans le magazine Transparence dont il était l'invité, Léana Colombo.
Interrogé par Elisabeth Noir sur le courrier du groupe Initiative Bakou qui propose sa médiation dans les négociations sur l'avenir institutionnel, le député de la première circonscription se dit satisfait de la réaction de Manuel Valls qui a indiqué dans un communiqué qu'aucune réponse ne sera apportée à ce courrier. Et Nicolas Metzdorf en profite pour annoncer ce déplacement en Arménie.
Je me rends en Arménie pour justement en apprendre plus sur les méthodes de l'Azerbaïdjan. Vous savez que l'Arménie souffre beaucoup des attaques et de la guerre avec l'Azerbaïdjan. Ils ont beaucoup souffert aussi de la désinformation du régime azéri. Ils ont mis en place des procédures et des moyens d'y répondre. Donc c'est toujours bon d'aller voir les ennemis de nos ennemis.
Concernant les négociations sur l'avenir institutionnel, Nicolas Metzdorf indique que pour l'instant, les choses se passent bien et qu'il y a une volonté de négocier, mais que sur le fond, il n'y a pas de véritable avancée. Il a aussi été interrogé sur ses relations avec Manuel Valls, à qui il avait reproché, il y a quelque temps, d'utiliser l'expression « de lien avec la France ».
Non, il n'en parle plus. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il ne parle plus de peuple premier, il ne parle plus de lien avec la France. Donc ça sert d'avoir des mots avec le ministre des Outre-mer. L'ambiance avec lui est bonne. Moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de compétent. C'est un ancien Premier ministre, quand même. C'est pas n'importe qui, c'est un homme d'État. Mais j'assume avoir des divergences profondes avec lui. Ça reste un homme de gauche et je reste un homme de droite. Je trouve qu'il a toujours tendance en Nouvelle-Calédonie à une forme de repentance qui, pour moi, n'est plus d'actualité en 2025. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des débats respectueux. Et donc, l'ambiance avec lui est bonne. Et j'ai trouvé d'ailleurs qu'il s'était recentré par rapport à ses premières déclarations lorsqu'il était venu la première fois, ou même avant qu'il vienne la première fois, où il avait parlé de trajectoire, de pleine souveraineté, de souveraineté partagée, de peuple premier, où là, il avait quand même enchaîné les mots contre triple. Je trouve que là, il est plus neutre dans son expression. Je pense que c'est parce qu'on a haussé le ton. Et donc, aujourd'hui, ça va mieux.
Sur le fond de discussion, le député de la première circonscription relève que les positions sont encore très éloignées et que si un accord est possible, il ne sera pas trouvé dans les prochaines semaines. Il parle d'un compromis politique et non d'un accord politique, mais pour lui, il ne faudra pas être naïf.
L'accord Nouméa nous a fait rêver. L'accord Nouméa nous a mis dans un rêve, nous a endormis. Et donc, on a cru des choses qui n'étaient peut-être pas vraies. Et on a voulu peut-être se voiler la face aussi sur des réalités calédoniennes. Je crois qu'aujourd'hui, si on trouve un compromis politique, ce compromis n'effacera pas la naïveté. Et il ne le faudra pas. Un compromis politique n'arrêtera pas le racisme en Nouvelle-Calédonie. Un compromis politique ne résoudra pas la question de la possibilité de trouver un vivre ensemble. On va signer un compromis parce que c'est mieux pour le pays, parce qu'il faut trouver une stabilité, il faut redonner de la perspective aux Calédoniens, etc. Mais il y a des questions qui ne seront pas réglées avec ce compromis politique. Et il y a des questions qui mettront du temps à être réglées, si elles se règlent un jour. Et la question notamment la plus importante qui est de savoir, est-ce que la majorité des indépendantistes veulent vivre avec les non-indépendantistes, en tout cas sur un même pied d'égalité? Les hommes naissent libres et égaux en droit. Donc ça, je ne sais pas et on le verra à la langue. Donc on peut signer un compromis politique tout en sachant qu'on ne va pas répéter la sérénade de l'accord de Nouméa le lendemain, en disant ça y est, on ne forme plus qu'un, c'est génial, ouais. On s'aime tous. Déjà, si on arrive à vivre en paix, ça sera bien. Le vivre ensemble, je pense que ça va mettre plusieurs années, voire des décennies, pour qu'on puisse y trouver une réponse.
On ne veut plus de référendum d'autodétermination, affirme Nicolas Metzdorf. Et pour lui, l'objectif des partisans de la France, c'est d'aller chercher un statut définitif.
Il faut essayer de trouver l'accord définitif. Il faut essayer de trouver un statut où on puisse dire aux Calédoniens, à la sortie de ce statut, c'est fini, c'est fini. Voilà, notre règle, c'est ça, notre fonctionnement, c'est ça, les compétences de l'État, c'est ça, les compétences de la Nouvelle-Calédonie, c'est ça, et on avance comme ça. C'est ça les règles du jeu, de manière indéfinie. Je pense qu'il faut plus de CDD. Il faut plus de contrat à durée déterminée sur un statut de la Nouvelle-Calédonie. Il faut un CDI. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on essaie d'aller chercher avec les indépendantistes, et c'est ça le message qu'on leur a fait passer.
Dans ces conditions, un compromis politique est possible, mais il peut prendre encore quelques mois, affirme le député de la première circonscription. Mais on n'est pas pressé, dit-il.
Nous, en fait, on n'est pas pressé, et je tiens à le dire, de trouver un accord politique, même si on est conscient de la situation économique et sociale du pays. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est français, et qu'il n'y a aucun référendum de prévu à l'heure où je vous parle, par la Constitution française, pour qu'on puisse se demander si on veut être indépendant ou pas à nouveau. Donc en fait, nous, on est dans une situation où on est français indéfiniment, là, à l'heure où je vous parle. Donc c'est aux indépendantistes de venir chercher un compromis politique et à proposer des concessions. Nous, pour l'instant, moi, mon passeport, il est français. Le vôtre, il est français. Et il n'est pas prêt de changer. Donc si les propositions des indépendantistes ne nous conviennent pas lors des visios ou fin avril, on n'a pas de raison de s'emballer. Même si je comprends, évidemment, parce qu'on croise tous les jours, l'urgence que nous dit le monde économique et les salariés. Mais ça, cette pression-là du monde économique et du salariat, elle est pour les deux camps.
Nicolas Metzdorf s'est aussi exprimé sur la situation économique et financière de la Nouvelle-Calédonie ou sur son prochain déplacement à Washington. Il veut faire du lobbying aux États-Unis parce qu'il estime que les partisans de la France sont trop absents à l'international. L'occasion de s'exprimer sur les droits de douane décidés par Donald Trump.
En tant que Calédonien, je serais vraiment mal placé pour donner des leçons aux États-Unis compte tenu de nos protections de marché actuelles. C'est-à-dire que nous, on ne met pas 10% hein, sur les produits qui sont importés. Nous, on interdit d'importer des produits. Ou alors, on donne des quotas, ou alors on taxe beaucoup plus que 10%. Donc, je pense qu'avant d'aller donner des leçons aux États-Unis sur les droits de douane qu'ils sont en train de mettre en place, on devrait aussi balayer devant notre porte. Et je suis très content de voir que le gouvernement actuel réfléchit à travailler sur un abaissement des protections à l'entrée de notre pays, parce que je pense que si certaines participent à conserver une industrie puissante en Nouvelle-Calédonie, d'autres protections de marché participent au mieux à un enrichissement des prix, au pire à une forme de pénurie. Donc je crois qu'on a aussi besoin de réformer notre modèle.
Et le député de la première circonscription a aussi commenté la condamnation de Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité avec exécution immédiate.
Une interview de Nicolas Metzdorf que vous pourrez entendre ou réentendre dans son intégralité ce soir après notre journal de 17h45. Interview qui est également disponible en audio et vidéo sur notre site internet le www.rrb.nc. Sous ce beau soleil, c'est place des Cocotiers que de nombreux Calédoniens ont décidé de passer leur dimanche. Le vide-grenier du centre-ville s'y tenait ce matin et comme toujours, les stands étaient nombreux. Et il y en avait pour tous les goûts, vêtements, objets de cuisine, outils, lèvres, livres. Bref, tout ce qui dort au fond d'un placard et qui peut faire le bonheur des chineurs. En ces temps compliqués, les gens sont plus que jamais à la recherche de bonnes affaires. C'était par exemple le cas de cette maîtresse d'école venue dénicher des livres pour ses élèves.
Je suis enseignante et je cherche des livres pour ma classe.
Pourquoi vous venez au vide-grenier pour chercher des livres ?
Alors tout simplement pour tomber sur de bonnes affaires, parce que les livres coûtent excessivement cher et quand on veut réachalander les livres de notre classe, le budget peut vite monter. Cette année, on a un financement qui est assez réduit au niveau des classes. Donc voilà, on vient faire les bonnes affaires où on peut. Surtout des albums, voilà, pour des élèves de petite section. Puis voilà, j'ai pas fini mon petit tour.
Et le vide-grenier du centre-ville reviendra bien évidemment le premier dimanche du mois de mai prochain. Toujours place des Cocotiers, l'agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie a décidé de profiter de l'affluence du vide-grenier pour faire de la prévention auprès du public. Charlotte Coulson.
4 jeunes de 12 ans sur 10 sont en situation de surpoids ou d'obésité en Nouvelle-Calédonie. Si vous pensez que c'est beaucoup, eh bien chez les adultes, cela concerne 7 personnes sur 10. Face à ce constat, la SSNC sensibilise le public depuis de nombreuses années. Déjà, aujourd'hui était une occasion parfaite puisque le vide-grenier du centre-ville attire beaucoup de monde. Cela permet, comme l'explique la coordinatrice du sport santé à la SSNC, Caroline Valla, d'attirer un public plus large.
Effectivement, le vide-grenier rencontre toujours un franc succès. Il y a le soleil qui est là au rendez-vous. Donc c'était une chance de pouvoir venir ici avec la ville de Nouméa qui nous a accueillis. C'était timide au début et puis au fur et à mesure, les gens viennent. Vu qu'on propose plusieurs animations, que ce soit des conseils diététiques, des bilans de conditions physiques et des tutos vidéo pour des mouvements qu'on peut faire chez soi, il y en a pour tous les goûts, donc chacun y trouve son compte. Il y a quand même une prise de conscience en Nouvelle-Calédonie des problématiques de pathologie de surcharge pondérale, hein, surpoids obésité. Et donc, les gens sont assez demandeurs de conseils pour essayer d'améliorer leur hygiène de vie avec des modes de vie plus sains et gagner en qualité de vie, parce que c'est ça notre objectif à l'Agence sanitaire et sociale.
Et vous l'avez entendu, ce sont des activités très complètes qui étaient proposées au kiosque à musique. De nombreux passants se sont prêtés à l'exercice, désireux d'en savoir un peu plus sur leur santé physique.
Alors du coup, je voulais savoir comment était ma condition physique, même si je fais déjà du sport en temps général, mais c'est toujours bien de savoir ce qu'il en est.
Aujourd'hui, je vous présente 5 tests différents. Vous avez un test sur l'équilibre. Il suffit tout simplement de mettre un pied sur la jambe, bien se grandir, bien sûr.
Parfait, l'ancrage du pied dans le sol, la jambe longue, et vous êtes à 1 minute 30. Donc défi parfaitement réussi.
Ouais, c'était cool, hein. C'est bien de savoir ça, je trouve ça vraiment pas mal. Hein.
Qu'est-ce que ça vous apprend en fait sur vous ?
En fait, ça nous apprend la souplesse, si on a vraiment de la souplesse, si on a de la force dans les bras, dans le haut du corps, donc c'est vraiment sympa. En soi, je pratique déjà le sport, donc ça c'est ok, mais peut-être la diététicienne va m'apporter d'autres choses que je n'ai pas forcément en pratique.
Et toutes les ressources distribuées aux passants lors de l'événement sont également disponibles sur le site internet de l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie, santépourtous.nc.
Dans l'actualité festive, le CineCity organisait hier la deuxième édition de la Nuit de l'horreur, avec au programme de 18h à midi à minuit, trois films à succès, The Monkey, Alien Romulus et Long Legs Charlotte.
Et le public est venu en nombre à la recherche de sensations fortes, mais aussi d'un moment convivial à passer entre amis, car il y a ceux qui aiment se faire peur et ceux qui préfèrent voir leurs camarades avoir peur. C'est parfois plus drôle. Et puis chacun sa sensibilité. Le genre horrifique est très vaste. On connaît par exemple les slashers, le gore, les films de paranormal ou encore les thrillers. Mais quel type de film est le plus susceptible de donner des frissons selon vous ? C'est la question que nous avons posée hier soir au public du CineCity.
Moi ça va, j'aime bien les films d'horreur même si je regarde pas beaucoup. À moi, ce qui me fait surtout peur, c'est surtout ce qui va toucher à la religion déjà. Moi j'aime bien beaucoup. Mais ce qui me fait vraiment bader quand je regarde un film d'horreur, c'est quand c'est perturbant, des scènes un peu vraiment trash, ça procure de l'effet d'horreur quoi.
Quand c'est vraiment, on va dire, naturel et que ça te fait vraiment penser à une psychologie humaine, c'est là où ça peut faire peur, mais sinon le reste ça va.
Si tu te dis, c'est pas tiré d'une histoire vraie donc c'est pas grave, alors que les trucs naturels, tu sais, ça existe pas, il y a toujours le doute, donc c'est ça qui me fait peur.
Je saurais pas comment expliquer, mais genre les gens qui sont fous, ça me fait peur. Le reste ça va, mais les gens qui sont fous, vraiment ça me dérange.
Et en espérant qu'ils aient trouvé leur compte donc dans la sélection d'hier, la Nuit de l'horreur reviendra sans doute pour une troisième édition à l'avenir.
Il est midi et 13 minutes, on va marquer une première pause dans ce journal. Nous revenons avec l'actualité en métropole et dans le monde.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite d'Info Week-end. On retrouve Lionel Sabot.
Une journée de mobilisation politique ce dimanche en métropole. Sont concernés le Rassemblement National, Renaissance, le parti présidentiel, mais aussi la France Insoumise et les écologistes. Le Rassemblement National appelle, fait très rare, ses militants à se retrouver place Vauban pour un grand rassemblement de soutien à Marine Le Pen. Gabriel Attal rencontrera, lui, les militants de Renaissance à Saint-Denis, c'est tout près de Paris. Et les filles et les écologistes se retrouveront, eux, place de la République, au cœur de la capitale. Trois manifestations, trois rassemblements et qui auront lieu en même temps et pratiquement à la même heure. Il y a comme une odeur de campagne, ou plutôt de pré-campagne présidentielle, à 2 ans de l'élection. Mayalène Trémollet pour Europe 1.
Même jour, même heure, même slogan, sauver la démocratie. Alors que le Rassemblement National appelle à la mobilisation pour défendre l'état de droit, après la condamnation lundi dernier de Marine Le Pen, Renaissance change ses plans. À l'occasion d'un meeting prévu de longue date, Gabriel Attal compte bien livrer une bataille à distance contre la chef de file des députés RN. L'ancien Premier ministre, qui ne cache pas ses ambitions présidentielles, espère ainsi s'imposer au sein du socle commun comme principal rempart à Marine Le Pen. Concrètement, le duel s'organise, les prises de parole des deux leaders politiques doivent avoir lieu à la même heure. Autre élément qui sera particulièrement scruté, le nombre de militants présents de part et d'autre. Si au sein du Parti Renaissance, les organisateurs attendent plusieurs milliers de personnes, de son côté, le RN compte sur la mobilisation de ses fédérations qui doivent venir d'un peu partout en France pour exprimer leur soutien à Marine Le Pen. L'enjeu est clair, chaque parti espère désormais une démonstration de force 2 ans avant le début de la campagne présidentielle de 2027.
Maïalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Le Rassemblement National d'un côté, la France Insoumise et les écologistes de l'autre seront donc dans les rues de Paris en même temps. Et forcément, les autorités craignent des tensions, voire même des débordements. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur.
Il y a toujours des craintes, bien sûr, parce qu'il y aura du monde. Il y a 3 rassemblements. J'ai fait le point avec Laurent Nunez, le préfet de police, dès ce matin. Nous assurons la sécurité. Voilà, la France est un pays de liberté où on peut librement, précisément, se rassembler, manifester, mais on doit le faire dans le bon ordre. On doit le faire en assumant une tranquillité. Nous avons mobilisé de nombreux moyens pour justement assurer cet ordre public et cette tranquillité. J'y tiens beaucoup.
Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, lors d'un déplacement à Marseille cette nuit pour nous. Et à propos du rassemblement qui se tiendra place à Vauban à l'appel du Rassemblement National, le Premier ministre François Bayrou réagit dans un entretien accordé aux Parisiens. Il n'est pas souhaitable de manifester contre une décision de justice, explique le chef du gouvernement. François Bayrou, qui dans cet entretien aux Parisiens, évoque également la politique du président américain sur les droits de douane. Le Premier ministre affirme que cette politique, dont la première phase, une surtaxe douanière de 10%, est entrée en vigueur il y a quelques heures, pourrait coûter à la France plus de 0,5% de son PIB. Après l'entrée en vigueur de cette première hausse de 10% des droits de douane pour les produits entrant aux États-Unis, plusieurs sociétés comme Jaguar ou Nintendo ont annoncé suspendre toute livraison vers les États-Unis. Et ce n'est qu'un début, explique Pascal Delima. Il est chef économiste chez CGI Business Consulting.
Bon nombre de pays vont riposter à ces droits de douane en instaurant également des droits de douane. Évidemment, c'est le cas de la Chine hier. Et donc la conséquence directe pour les Américains, c'est une hausse des prix des Nike, des iPhone, une hausse des prix générale dans l'économie américaine qui va impacter directement le pouvoir d'achat des Américains. Et en particulier, comme d'habitude, les classes moyennes.
Pascal Delima, chef économiste chez Business Consulting. Après les annonces faites par Donald Trump avant-hier, les vins français, par exemple, vont voir leurs droits de douane augmenter de 20%. Si cette décision fait peur aux exportateurs, certains viticulteurs sur le terrain pensent au contraire que cette hausse des taxes aux États-Unis pourrait finalement être une bonne chose à l'échelle locale. Noé Chaliot pour Europe 1.
Dans un domaine viticole à proximité de Strasbourg, Rémi Adam vend des vins blancs alsaciens. Il exporte 5% de ses ventes aux États-Unis. Mais à la question, est-ce que la hausse des taxes doit inquiéter? Il se montre nuancé. Pour lui, moins d'exports, c'est l'occasion de vendre davantage en local.
S'ils n'arrivent pas à vendre à l'extérieur, les concurrents vont se rabattre sur la vieille Europe, hein, donc chez nous. Et donc, plutôt tendance peut-être à baisser les prix, justement pour essayer de vendre plus.
Face à des prix plus faibles et à la fidélisation des clients français, il pense pouvoir tirer son épingle du jeu.
Alors 20%, c'est pas non plus 200%, hein, comme c'était prévu au départ. Après, les clients sont assez fidèles. Après, ben, il y a la qualité, il n'y a pas que le prix, hein, surtout dans notre domaine, parce qu'il y a une histoire. C'est pas comme quand vous allez en grande surface, vous prenez la bouteille dans le rayon, c'est la couleur de l'étiquette qui va faire la différence. Nous, les gens, ils achètent pas tellement l'étiquette. Ils achètent le produit, mais ils achètent aussi le vigneron.
Cette hausse des taxes pourrait donc être un mal pour un bien, en recentrant les producteurs sur le marché local et en proposant des prix de vin plus faibles aux consommateurs.
Chaliou, le correspondant d'Europe 1 dans le Grand Est. En bref, cette opération anti-drogue est inédite. Ça s'est passé dans la Manche. 800 kilos de cocaïne saisis alors que les trafiquants étaient en pleine transaction. En pleine mer, 26 sacs contenant de la drogue ont été récupérés. Valeur estimée à la revente, 50 millions d'euros, ce qui fait près de 6 milliards de francs pacifiques. 6 personnes, dont 3 marins pêcheurs, ont été interpellées. En bref encore, à l'étranger, l'Ukraine a été visée par l'une des frappes russes les plus meurtrières de ces dernières semaines. L'armée russe a visé la ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est un missile balistique qui a frappé un quartier résidentiel. Le bilan fait état d'au au moins 18 morts, dont 9 enfants. Et puis dans la région Pacifique, avec plus de 5000 cas déclarés, la dengue ne cesse de progresser aux îles Fidji, où le seuil épidémique avait été franchi le 14 mars dernier, lorsque la barre symbolique des 2500 cas déclarés avait été franchie. Correspondance, Jean-Pierre Zajac.
Près de 5200 cas de dengue étaient signalés fin mars aux îles Fidji, où 820 cas de leptospirose sont également à regretter, contre 65 en Nouvelle-Calédonie. Le ministère de la Santé a confirmé que ces deux maladies sont dues aux fortes pluies et aux inondations qui ont été causées ces derniers mois par une succession de dépressions tropicales, lesquelles ont créé les conditions idéales à la propagation de bactéries et virus, dont celui de la dengue. Il a ajouté que, s'agissant de la dengue, les équipes de la santé publique ont poursuivi leurs opérations porte à porte de prélèvement larvaire, d'application de larvicides et de pulvérisation anti-moustiques. Elles ont également préconisé le nettoyage des zones humides susceptibles de favoriser la propagation du virus de la dengue et la destruction des rongeurs susceptibles de véhiculer les bactéries de la leptospirose. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est midi et 21 minutes, on marque une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, nous parlons sport.
Simplifiez-vous la vie avec le paiement en ligne. Pas besoin de créer de compte, rapide et pratique. Allez sur www.cde.nc, cliquez sur espace client et choisissez le paiement express pour régler votre facture d'eau. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
C'est le grand retour du Totem sur RRB. Un jeu que vous adorez et qui vous permet de découvrir un objet mystère. C'est le moment d'affûter vos petites cellules grises pour trouver le totem et pour décrocher la cagnotte. En jeu, des bons d'achat offerts par notre partenaire les marques calédoniennes et tricorillées. Le retour du totem, c'est le 7 avril sur Radio Rythme Bleu.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Lionel Sabot.
Et on va commencer avec du football et le Paris Saint-Germain qui a remporté cette nuit pour nous son 13e titre de champion de France. Le 4e de suite, les Parisiens qui affrontaient Angers se sont imposés sur la plus petite des marques. Victoire 1-0. C'est Désiré Doué qui a offert le but du titre au Paris Saint-Germain. Après 28 journées disputées, Paris reste invaincu en championnat. 23 victoires. 5 matchs nuls. Luis Enrique, l'entraîneur du PSG.
Je ne crois pas qu'il y ait de meilleure motivation pour nous que d'essayer de rester invaincu en championnat. Nous sommes déjà champions et conserver cette invincibilité va nous aider à être prêts pour la finale de la Coupe de France fin mai. Et si nous poursuivons en Champions League, à rester compétitif.
Et la Ligue des Champions, justement, le PSG jouera son quart de finale aller de la compétition. Ce sera face à Aston Villa jeudi matin pour nous. À Paris, champion de France pour la 13e fois de son histoire. Sacré cette nuit devant son public au Parc des Princes. Une grande joie pour les supporters du PSG, même si, vous allez l'entendre, pour certains, ce titre n'est pas un aboutissement.
Le moment incroyable, on n'attendait que ça, que ça. Ah oui, c'est le maillot de Doué en plus, il marque. Bah après c'est le seul, on attendait plus de buts quand même, mais on est content de cette victoire quand même. Le fait que ça soit à la maison, c'est un sentiment encore plus fort. Parce que là, on est ici à domicile, on gagne, on repart avec le trophée. Non, magnifique. Magnifique.
C'est magique.
Non, non, pas de fête. Non, non, on verra ça en fin de saison. Il y a encore plein de trophées encore à prendre. Donc on va les prendre et puis on est là pour ça, quoi.
Et le Paris Saint-Germain jouait tôt ce matin la 28e journée du championnat de France de Ligue 1. Deux autres matchs étaient à l'affiche cette nuit et ce matin. Brest s'est imposé 2-1 sur Monaco. Lyon, devant son public, s'est imposé également 2-1 également, mais sur Lille. Les Lyonnais qui reviennent très très fort dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Le Sport Co, c'est aussi du rugby avec la suite des huitièmes de finale de la Coupe des Champions. Trois clubs français étaient sur les pelouses européennes ces dernières heures. Toulon s'est presque facilement qualifié pour les quarts de finale après sa belle victoire, son carton face aux Saracens, score final 72-42. Devant son public, le Castres Olympique a arraché sa qualification dans les toutes dernières secondes de son match face aux Italiens de Trévise, score final 39-37. Les Castrais qui s'imposent après un essai transformé à la toute dernière minute de la rencontre. Enfin, le seul point noir de cette journée, c'est La Rochelle qui s'est inclinée à domicile. Défaite cruelle pour les Maritimes qui se sont inclinés 25-24 devant les Irlandais du Munster. On passe au sport mécanique avec de la Formule 1 ce week-end et la troisième manche du championnat du monde, c'est le Grand Prix du Japon.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et rendez-vous cet après-midi sur le tracé de Suzuka pour le Grand Prix dont le départ sera donné à 16h. C'est Max Verstappen sur Red Bull qui s'élancera en pole position après avoir sorti hier lors de la séance de qualification un chrono d'extraterrestre, le meilleur tour absolu sur le tracé de Suzuka. Cet après-midi au départ de la course, il aura à ses côtés sur la première ligne la McLaren de Lando Norris qui avait dominé les séances d'essais libres ces deux derniers jours. Sur la deuxième ligne, on trouvera l'autre McLaren, celle de l'Australien Oscar Piastri et la Ferrari de Charles Leclerc. Côté français, c'est Isaac Hadjar au volant de sa Racing Bull qui s'en est le mieux sorti hier lors de la qualif en signant le 7e temps. Pierre Gasly a signé lui le 11e temps au volant de son Alpine. Il s'élancera depuis la 6e ligne. Quant à Esteban Ocon sur As, il partira de l'avant-dernière ligne après avoir signé hier le 18e temps de la qualif. Le Grand Prix, ce sera donc à suivre cet après-midi à 16h.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Allez, on termine avec du sport en Calédonie et du badminton. Et le dernier jour de la Coupe Arias Pacta Adulte. La compétition se déroule jusque ce soir à la salle Omnisport de Lens-Vatal et Anna Colombo.
Plus de 100 badistes se disputent depuis hier la première place du podium. Deux jours de compétition intense où pas moins de 200 matchs se sont succédés, toutes catégories confondues. Hier après-midi se déroulaient les finales de badminton en simple. En série 1, victoire de Marc-Antoine Decemoz chez les hommes et de Johanna Kou chez les dames. Johanna Coup qu'il a également emporté ce matin lors des phases finales de double mixte en série 1 en compagnie de Ryan Nagle. Autre match très suivi, la finale de série 2 qui voyait s'affronter le club de Dumbéa représenté par des jeunes joueurs de moins de 15 ans contre des adultes du club de la Foi. Et on pouvait sentir une certaine ferveur dans les tribunes où chacun supportait son favori.
Je ne suis pas censé supporter d'autres clubs, mais pour l'instant je suis pour Dumbéa.
Nous on supporte le club de la Foi. C'est serré, mais en même temps voilà, c'est la finale donc... On espère qu'ils vont aller jusqu'au bout.
Il y a du beau potentiel pour un troisième set. Là, c'est la Foi contre Dembéa. Et franchement, il y a des bons joueurs.
Finale de tableau mixte avec Christopher Benet et Angélique Savard. On est tous contents, tous solidaires, tous derrière eux.
Je pense que c'est les jeunes les plus forts en mixte actuellement. Donc ouais, c'est pas étonnant que ceux qui gagnent pour l'instant.
Vous êtes pour qui?
Pour la Foi. C'est bien la Foi.
Et c'est finalement le club de Dumbéa qui l'emporte face à la Foi dans cette finale double mixte de série 2 au terme d'un match intense. Une belle performance d'Augustine Capitaine et de Nathan Saridio qui sont sortis de leur zone de confort, explique-t-il.
C'est dur, on a fait un 3-7, c'est plus dur contre les adultes. C'est beaucoup plus rapide qu'avec les enfants et leur match c'est plus puissant. Parce que si on le veut, le garçon il nous se matchait dessus.
Comme elle a dit, c'est des adultes. Donc le niveau il était vraiment différent de ceux des enfants. C'est plus rapide, plus puissant et fatigant aussi. Ça permet de voir notre niveau en tournoi. Qu'est-ce qu'on vaut vraiment?
Objectif, atteindre la série 1 j'imagine?
Oui bien sûr, et de gagner en série 1.
La compétition doit se terminer ce soir avec une remise des récompenses. Mais avant cela, cet après-midi, se joueront les finales double dames et hommes.